Europe 1.
h18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter avec rigueur, mais aussi légèreté, en compagnie d'un garçon dont la culture historique est justement, comment dire, très légère. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Oui, vous le savez, chaque après-midi on réunit trois personnages très différents. Aujourd'hui Stéphane, est-ce que vous êtes prêt à plonger avec moi ?
Enfin personnellement, j'ai pas mon maillot. Tant pis, je ferai sans.
Franchement, vous savez, courageux, je vous découvre exhibitionniste et entre nous, j'aime ça.
Et elles aussi, elles aiment ça, Mathieu, plonger au fond de l'océan. Elles ont même touché le fond de l'océan et on lie à jamais leur destin à celui de la mer. À commencer par la pionnière, l'océanographe Anita Conti, dite la dame de mer, qui dans un univers jusqu'alors réservé aux hommes a passé sa vie à observer la mer et compris bien avant l'heure qu'il fallait la préserver, elle et les richesses qu'elle contient. Puis, je vous raconte Sylvia Earle, l'américaine, toujours en vie, on fait une exception, aujourd'hui d'habitude je fais que les morts, qui a réellement touché le fond de l'océan et marqué l'histoire de la recherche, vous allez voir. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'une star qui a touché le fond. Elles sont nombreuses, mais elles, et on reste dans l'eau, c'est heureusement que le fond de la piscine.
J'ai touché le fond de la piscine.
Oui, avec son petit pull marine, tout décousu au coude. Isabelle Gianni a connu des hauts très hauts et des bas très bas. Retour sur l'itinéraire d'une enfant pas si gâtée que ça du cinéma français, vous verrez.
Et avec nous, comme chaque jour, bon, il touche parfois le fond, mais il remonte toujours à la surface. Elle, notamment, elle nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Eh bien, les dames dont je vais vous parler, elles aussi ont touché le fond, mais cette fois le fond de la bouteille. Je vais vous parler de femmes célèbres qui souffrirent de dipsomanie. C'est un terme rébarbatif qui désigne la propension morbide à s'enivrer. La dipsomanie.
Mais dipsomanie, c'est
l'alcoolisme,
concerne...
quoi.
C'est l'alcoolisme,
oui,
quoi.
Bien sûr, c'est ça. Mais c'est le. Tout à fait.
Intéressant.
Avec nous également David Castello-Lopez qui remonte toujours aux origines d'une invention aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui, c'est vraiment un objet du quotidien, c'est le dictionnaire.
Effectivement. Hein,
depuis quand ça existe, les dictionnaires. Alors, je vous avoue que l'histoire des dictionnaires n'est pas passionnante en elle-même, en
mais
tout
vous
cas,
vous
ses origines.
La
je vais me débrouiller pour qu'on passe 4 minutes de bonne qualité.
Avec des fun facts. Voilà. On parle de fun facts.
Voilà.
Olivier Pouls est avec nous également chaque jour l'histoire d'une recette. Ou d'un produit.
Oui, bah, la lettre P de votre dictionnaire, on va trouver P, 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 pistache,
oui.
Et on va trouver les origines de la pistache et une recette qui va avec, d'où nous vient la pistache.
Enfin, c'est une séquence qui fait cruellement écho à notre thème du jour, Burn to be Alive, ce quiz qui à la base devait être l'occasion pour Stéphane et Clémentine de faire étalage de leurs connaissances historiques et dans lequel, hélas, ils ont touché depuis longtemps le fond de la piscine. Ils sont en train d'attaquer le liner à la perceuse. L'un des deux remontera-t-il à la surface ? Attends, on croise les doigts. Rendez-vous vers 6h-10. Mais tout d'abord, découvrons l'histoire de celle qui a changé notre regard sur la mer. Il faut dire qu'elle a passé sa vie à l'observer à une époque où seuls les hommes pouvaient y prétendre. Stéphane Bern nous raconte en apnée la dame de mer pionnière de l'océanographie et écologiste avant l'heure, Anita Conti.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes en octobre 1952 en mer du Labrador au large des côtes de Terre-Neuve. Un chalutier bataille contre une mer déchaînée. Le bois rosé, imposant bâtiment de ferraille, fentant bien que mal des flots qui se gonflent et se creusent sans discontinuer. Le navire se soulève, il déchire la crête de vagues immenses, puis s'abat violemment leur creux. Au rythme de ce balancement infernal, la coque longiligne, grise, blanche et rouge, se dévoile quasi tout entière, puis disparaît complètement sous la surface de l'eau. Sur le pont, les flots déferlent, puis se retirent, charriant avec eux des morceaux de glace. Voilà près de 2 mois que le bois rosé a quitté Fécamp, son port d'attache en Normandie. Il lui reste encore 3 mois de cette éprouvante campagne de pêche dans les mers arctiques. La plus rude qui soit, celle de la pêche à la morue, le grand métier comme on l'appelle. À bord, ont embarqué 60 marins pêcheurs, tous des hommes, tous rodés aux rudesses de la mer. Ils se relaient jour et nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Ils remontent le chalut, trient, nettoient, étêtent les poissons, ramendent les filets et tout le reste. Et ce, pendant de longs mois, à des milliers de kilomètres de chez eux. 60 hommes et une femme, une seule, Anita Conti. Anita a 53 ans. C'est une femme de diplomate, raffinée, relieuse d'art, photographe, mais aussi poétesse et écrivaine. Alors que fait-elle à bord de ce navire chahuté par des mers hostiles, coincé pendant des mois sur ce rafio infernal ? Anita Conti prend des photos, fait des relevés, des échantillonnages, du sondage, des observations, des comptes rendus. Elle étudie la mer, sa salinité, établit des cartes de pêche. Anita Conti est la seule femme à avoir jamais assisté à la grande aventure de la pêche à la morue. Elle est en mission. Une mission scientifique pour le compte de l'Office scientifique et technique des pêches maritimes, l'OSTPM, l'ancêtre de l'Ifremer. Pourquoi elle ? Parce qu'Anita Conti a beau être une femme, personne ne sait se fondre dans le monde des marins pêcheurs comme elle. Elle le connaît. Elle sait s'y faire accepter, se faire discrète, ne jamais se plaindre, ne jamais avoir froid, ni avoir faim, ni soif ou sommeil. Cela ne la dérange pas, au contraire, cet univers, c'est aussi le sien. Ce monde d'une infinie rudesse la fascine depuis aussi loin qu'elle s'en souvienne. On raconte que cet amour, peut-être, est né quand elle était encore un nourrisson, quand son père, médecin hygiéniste, l'a plongée en pleine mer près de l'Orient. Ou peut-être, tout simplement, est-il né de son enfance passée entre la banlieue parisienne et les côtes bretonnes, puis de son adolescence sur l'île d'Oléron où elle a vécu exilée avec sa famille pendant la Première Guerre mondiale. Des années à côtoyer l'océan de près, à se lier d'amitié avec des enfants de pêcheurs, à embarquer avec leurs parents pour des expéditions en pleine mer. De tout cela, elle a tiré un ardent besoin de côtoyer cette vaste étendue au-delà du rivage, de comprendre ce qu'il se passe sous sa surface et de la protéger. En 1992, dans les dernières années de sa longue vie, Anita, qui a 93 ans à ce moment-là, l'explique comme un besoin vital de se détacher de la terre, de courir à l'horizon.
Si je n'étais pas portée par la mer de temps en temps, je serais morte. Sur la terre ferme, vous mesurez l'obstacle. En mer, vous ne mesurez rien.
Après la guerre de 14-18, Anita, alors encore Anita Karakotchian, son nom de jeune fille, s'éloigne un temps de cet océan qu'elle adore. Elle s'installe à Paris, exerce avec beaucoup de succès le métier de relieuse d'art. En 1927, elle fait un beau mariage, comme on dit. Elle épouse un diplomate, Marcel Conti. Mais elle n'a pas oublié son grand amour, la mer. Loin d'être un frein à sa passion, son union la libère. Désormais mariée, on la laisse tranquille, libre de ses mouvements. Cette liberté, elle l'exerce notamment en continuant d'embarquer régulièrement à bord de bateaux de pêche, parce qu'elle en ressent un besoin impérieux. Mais pas seulement, ces virées sont aussi l'occasion pour elle de parler de la mer, de partager ce qu'elle sait au travers d'articles qu'elle publie dans la presse. Car grâce à sa proximité avec le monde des pêcheurs, aux expériences hors du commun qu'elle vit en accompagnant ces loups de mer dans leur campagne, elle devient journaliste reporter, spécialiste du monde de la pêche et des richesses marines. C'est son charisme naturel qui joue aussi. Elle sait convaincre et passionner son auditoire. Ainsi, elle décroche des collaborations avec des titres comme La République, Le Figaro, L'Intransigeant ou L'Illustration, et y publie aussi ses photos. Car outre sa passion pour la mer, Anita Conti est aussi photographe amateur. Depuis ses années à Oléron, elle collectionne les clichés. Elle en prendra près de 50 000 au cours de sa vie. Dans ses papiers de l'époque, transparaît déjà quelque chose d'inédit, un message écologique. Ainsi, par exemple, en 1934, au sujet des parcs à huîtres, elle interroge, je cite, « Les champs marins auraient-ils besoin, comme les champs terrestres, d'un rythme de repos ? Ne serait-il pas temps d'étudier cette question de plus près ? L'Office des pêches pourrait trouver là une vaste matière d'étude. » L'Office des pêches, le fameux OSTPM, ancêtre de l'Ifremer, c'est justement l'année suivante qu'elle en intègre les rangs. Anita Conti est repérée grâce à ses articles par un grand océanologue français, Édouard Le Danois. Son poste, attaché à la propagande. La plus grande aventure de sa vie débute, celle qui fera d'elle une océanographe autodidacte. La première femme française à exercer ce métier. La première aussi à embarquer sur un navire. Français. À son bord, Anita Conti effectue plusieurs missions, notamment dans le golfe de Gascogne ou en mer d'Irlande. En 1939, elle embarque pour son premier voyage à bord d'un chalutier morutier. 3 mois passés en mer, au-dessus du 75e parallèle. 3 mois dont elle revient avec une certitude, les ressources sous-marines sont fragiles et épuisables. Mais une autre menace va reléguer ses considérations écologiques au second plan, pour un temps en tout cas. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Elle qui connaît bien la mer et qui n'en a pas peur s'engage dans la marine nationale. Elle est là encore, la toute première femme à le faire. Au sein de cet univers encore une fois très masculin, elle fait figure de mascotte. Embarquée en qualité de photographe sur des chalutiers en bois chargés du déminage de la mer du Nord, on la considère comme un porte-bonheur. On dit que les bateaux sur lesquels elle monte ne sautent pas. En 1940, elle prend même part à l'évacuation de la poche de Dunkerque. Puis en 1941, pendant l'occupation, elle est envoyée en mission pour trouver du poisson au large de l'Afrique de l'Ouest. Le but ? Pallier la pénurie qui frappe la France du fait de l'interdiction de pêcher en Atlantique Nord. Elle met au point de nouvelles techniques de conservation du poisson, dresse la carte des fonds marins, ouvrant la voie à la venue d'autres chalutiers. Elle y passera plusieurs années jusqu'au début des années 50. Pas seulement en mer, mais aussi dans les terres, à étudier les espèces endémiques de poissons, à naviguer sur les fleuves à bord de pirogues, à aider les populations locales à améliorer leurs techniques de pêche. De ses années passées en Afrique, elle revient avec l'idée d'un livre, « Géant des mers chaudes », vibrant témoignage de ses aventures. Elle reviendra aussi, plus surprenant, avec un python. Oui, un python pour lequel elle s'était prise d'affection et qu'elle gardait autour de son cou. Elle publie deux autres livres à succès, « Racleur d'océan » en 1952, au retour de sa fameuse expédition de 5 mois à bord du Bois Rosé, puis « L'océan, les bêtes et l'homme » 20 ans plus tard, dans lequel elle raconte un demi-siècle de recherche en mer. Ce dernier ouvrage est le reflet du combat qu'Anita Conti a mené toute sa vie, a fortiori à partir de la fin des années 50, celui de lanceuse d'alerte. Ayant constaté de ses yeux la fragilité des ressources maritimes, elle n'aura de cesse d'alerter, au travers de ses écrits et de nombreuses conférences, sur la surexploitation des océans, sur les excès de la pêche non sélective, sur le gâchis des denrées alimentaires, avant de prôner dans les années 70 l'aquaculture dont elle fut là encore l'une des premières. Comme elle a vécu, Anita Conti nous a quitté une nuit de tempête, celle de Noël 1997. Elle avait 98 ans, mais reste un personnage étonnamment peu connu au regard de son incroyable vie et de l'impérissable héritage qu'elle nous a légué.
Europe 1,
historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de l'injustement méconnue Anita Conti, nous sommes avec Laurent Giraud-Conti. Bonjour Laurent.
Bonjour, merci à vous.
Bonjour Laurent Giraud-Conti, vous êtes le fils adoptif d'Anita Conti et vous vous attachez à entretenir sa mémoire. Vous avez rencontré Anita Conti un beau jour de l'année 1986. Vous aviez quel âge et ensuite vous l'avez accompagnée, je crois, pour le reste de sa vie.
Anita avait 87 ans et j'en avais 30.
Et la femme que je viens de raconter, c'est celle que vous connaissiez. Vous écrivez qu'elle était tournée vers l'autre, que ce soit l'humain, les animaux, les éléments de la nature.
Anita, oui, était vraiment à l'écoute de l'autre, de ce qui l'entoure, et de l'étranger, vraiment. Et elle se mettait vraiment au service. Elle disait d'ailleurs, le mot service se prononce debout. Et quand j'ai rencontré Anita, sur une péniche, à Paris...
Dans quelles circonstances ?
Mais oui, parce que ça nous intrigue. Oui.
À l'occasion de la parution d'un livre qui s'appelait « Les enfants du capitaine Nemo ».
Et alors, Anita Conti, elle, c'est une femme qui regardait toujours vers l'avenir, j'ai l'impression. Elle écrit « Je ne vis pas de souvenirs, si ça vous intéresse, c'est à vous de vous en occuper ». Vous l'avez prise au mot.
De vous en emparer même, et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous en êtes emparé, et c'est magnifique. Et effectivement, Anita, je pense qu'elle avait traversé de grosses épreuves, dont elle nous épargne les soucis. Et c'était une façon de se soulager des difficultés qu'elle avait traversées et de nous dire, voilà, c'est à vous maintenant.
Donc elle a plongé dans la mer, si on peut dire. Vous, vous avez plongé dans ses archives. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Est-ce que vous avez appris de nouvelles choses par rapport à ce qu'elle vous avait elle-même raconté ?
Alors, ce qui est important dans le travail d'Anita Conti, c'est que c'est le regard d'une femme sur un monde qui était essentiellement masculin. Le regard, à ce titre-là, c'est un regard qui est légèrement décalé, évidemment, parce qu'elle n'est pas un marin comme les marins pêcheurs ou les scientifiques avec lesquels elle travaillait. Donc là, il y a un léger décalage et qui fait que c'est intéressant parce qu'il y a une autre sensibilité. Et puis, il y a un talent qui est le sien, propre, en tant que photographe, en tant qu'écrivain. Et à ce titre-là, c'est au-delà d'une femme. C'est quelqu'un qui a un talent et un goût, une passion pour la mer. Et au-delà d'une fonction, une fonction Voilà.
Mais justement, ces milliers de photographies, on peut les admirer en partie dans votre dernier livre, Anita Conti et la Bretagne, paru aux éditions Filigrane. Pourquoi c'est important de les redécouvrir et qu'est-ce que ces photos nous racontent, et d'elle et de ses passions?
Alors, ces photos racontent à la fois la vie des pêcheurs, des marins, à la fois un regard sur le monde maritime, qui est un regard, comme je viens de le dire, un peu décalé, et puis aussi une sensibilité, un cadrage. Anita donc avait un talent d'artiste en tant que relieur et en tant que photographe, où vraiment on s'aperçoit que le cadre, les portraits, les basculements de l'image, parce qu'elle s'intéresse pas forcément au fait que l'horizon soit horizontal, elle bascule l'appareil, elle travaille avec des moyens formats, donc faut imaginer, moyen format c'est 12 images par pellicule. Et donc, quand elle ramène 5000 clichés sur après une campagne, il faut imaginer, pour changer de pellicule avec ces boîtiers-là, il faut 5-10 minutes.
Stéphane le racontait dans le récit, Anita Conti a aimé très jeune la mer et l'aventure. Est-ce qu'elle vous a raconté comment ça lui est venu, cette passion pour la mer?
Alors, ce serait né effectivement par le fait que son père l'aurait plongée au large de l'Orient, alors qu'elle était encore tout nourrisson. Son père, un fervent hygiéniste, un médecin un peu avant-gardiste, et puis des personnalités un petit peu, une famille un peu alerte, un peu en avant-garde. On fréquentait Pierre-Marie Curie, paraît-il. Enfin, on l'aurait rencontré dans la bibliothèque du grand-père. Voilà, donc c'est tout un milieu comme ça qui a ouvert Anita au milieu du grand large. Et surtout parce que la famille faisait de longs séjours sur les côtes bretonnes et vendéennes et normandes aussi. Et puis Anita a pris ce goût en fréquentant justement peut-être ses premiers chercheurs à Roscoff, à Concarneau, qui faisaient de l'échantillonnage. Anita s'est familiarisée, s'est faite apprécier par ces jeunes chercheurs, et puis elle s'est faite embarquer. Et puis voilà, après on ne sait pas comment naissent vraiment les passions.
Les vocations, oui.
Voilà.
Anita Conti n'a jamais eu peur des éléments et de la force d'une mer déchaînée. Vous racontez même qu'elle nageait avec les requins.
Oui, elle a nagé avec différentes espèces de requins, en Afrique notamment. Donc on peut imaginer le requin-tigre.
Regardez ça,
notamment.
Stéphane, trembler.
Ah non, mais c'est... Et puis c'est le requin de la mer, là.
Le fameux requin pèlerin qu'on trouve au large de nos côtes bretonnes. Un requin très gros, qui peut atteindre les 7-8 mètres.
Mais il est gentil, lui.
Mais qui est très doux, puisqu'il mange que du plancton. Mais il faut se méfier si on l'approche, parce qu'il a une peau qui est du vrai papier de verre. Donc il faut le prendre dans le bon sens.
Ah ben ça, faut le savoir. C'est quoi le bon sens ?
Il faut pas le caresser dans le mauvais sens.
Il faut pas le caresser dans le mauvais sens. Ouais. Et donc Anita, effectivement, les a approchés dans les années 50, alors que la plongée, l'équipement de scaphandrier n'existait pas encore, où il était en train de naître.
Elle plongeait comment alors ?
Elle plongeait avec son soutien-gorge et sa petite culotte.
Incroyable.
Elle n'avait pas de maillot de bain.
Ah. Oui. Mais en fait, pour elle, l'homme n'est qu'une espèce parmi les autres. C'est l'une des leçons que nous pouvons retenir de ce qu'elle a laissé.
Oui, l'homme fait partie d'un grand tout, et l'élément dont l'élément aquatique, est, on en est complètement extérieur, mais bon, on peut le pénétrer un petit peu comme ça. On ouvre une fenêtre sur le monde aquatique. Même les chercheurs contemporains ne peuvent pas mener des recherches en permanence. Donc effectivement, Anita fait corps avec un milieu, avec le milieu.
Moi, personnellement, je découvre Anita Conti aujourd'hui. C'est important pour vous qu'une figure comme celle-ci soit redécouverte par la jeunesse ?
Moi, je trouve absolument. Parce que quand je l'ai rencontrée, donc j'étais seul chez elle avec elle et j'étais étonné. Je me suis dit, mais on devrait être 10, 15, 20, 30 à l'écouter. Et on s'intéresse beaucoup aux chercheurs anglo-saxons parce qu'il y a des grandes aventurières, il y a des grands témoins de l'histoire qui nous rapportent, comment dire, dont les témoignages sont importants pour nous. Et puis à côté de nous, chez nous, en France, on a des personnalités comme celle-ci qui auraient pu passer complètement aux oubliettes, et alors qu'elle a vraiment mené une vie extraordinaire, et puis qui peut servir d'exemple aux jeunes générations, parce que il n'y a pas de dichotomie entre l'œuvre, le travail et la personnalité.
Je le disais, Anita Conti était une pionnière de l'écologie. Elle avait très vite fait le constat amer que les ressources maritimes n'étaient pas inépuisables. Vous demandez parfois comment elle réagirait aujourd'hui face à l'état actuel des océans et avec tout ce qu'on est en train de faire ?
Alors, soit elle réagirait vraiment avec un grand désespoir ou alors avec un humour terrifiant, parce qu'elle était capable de croquer les circonstances avec ou le désespoir ou l'humour. Et elle alternait très, très, très vite, très facilement, avec le sens de la tragédie entre ces deux polarités. Mmh.
Et est-ce qu'à l'époque, on a pris en compte ces constats ? C'était un peu une lanceuse d'alerte avant l'heure ?
Alors, je pense que dans les archives de l'IFREMER, on va retrouver les documents de l'OSTPM, ces comptes rendus, où est clairement, par exemple, elle parle du réchauffement des eaux en 1939 au large du Spitzberg.
Oui.
Mais toutes ces observations sont prises dans une telle masse où, avant tout, il était important de nourrir, de cartographier les zones de pêche et de produire. Et Anita disait que la pêche n'est pas une production. C'est une extraction.
C'est vrai.
Mais c'est juste, absolument, c'est vrai. Oui, bien voilà. Sûr.
Elle a signé une demi-douzaine d'ouvrages dans lesquels elle raconte ses aventures et raconte ce qu'elle a observé, ses constats. Lequel de ces livres conseilleriez à nos auditeurs qui souhaiteraient la découvrir et en savoir plus sur son destin et sa vie ?
Alors, je dirais deux titres, pour l'aventure et l'embarquement, racleur d'océan, où Anita nous embarque donc à bord du Bois Rosé sur une campagne de pêche à la morue. Et puis pour son héritage qui compare à la fois l'expérience et le compte et l'observation avec des où elle se projette dans l'avenir, l'océan, les bêtes et l'homme, son troisième ouvrage qui est un livre héritage vraiment où elle met vraiment toute sa pensée. Un petit poème ?
Oui, bien sûr.
Ah,
oui.
Parce qu'Anita écrivait de très beaux poèmes.
Oui, j'ai poétesse et écrivaine.
Oui. Alors voilà un poème qui la caractérise vraiment et qui nous renvoie à nous-mêmes. Sur des flots immensément pareils et sans fin dissemblables, vers les horizons qui reculent, vers les étoiles qui vont naître, vers l'infini du bleu qui va noircir, un navire emporté jusqu'au bord du ciel. De ses parois de fer, il déchire les eaux. Et moi, en lui, prisonnière.
C'est beau.
Oui.
C'est très beau. Où est-ce qu'on le retrouve ces poèmes ? Il y en a là-dedans ou pas ?
Non.
Dans votre livre ? Non, c'est dans un autre livre.
Un petit livre qui s'appelle « Les vaisseaux du hasard », un recueil de poésie.
D'Anita Conti. Merci Laurent Giraud-Conti.
Beaucoup de talent quand même.
Oui, beaucoup de talent. Oui. Et dans tous les domaines. Oui. Je rappelle le titre de votre dernier livre, « Anita Conti et la Bretagne », disponible aux éditions Filigrane. Et je précise qu'une exposition éponyme se tient en ce moment même et jusqu'au 2 janvier prochain à l'hôtel Gabriel de Lorient.
C'est ça. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires à consommer avec modération. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, de modération, vos dômes...
Oula, vous, en revanche, Stéphane, c'est pas ce que vous avez dit avant.
Disais, l'eau, c'est origineux.
Et aujourd'hui, Clémentine, de modération, vos dames en ont manqué. Puisque vous nous racontez celles qui ont touché le fond, non pas de l'océan, mais le fond de la bouteille.
Oui, mais alors comme je suis parfaitement sobre, je m'inscris en faux contre cette formule d'introduction qui suppose que mes histoires soient à consommer avec modération, ce qui n'est pas le cas. Elles sont à consommer sans modération.
C'est vrai.
Et aujourd'hui, je vous parle en effet de femmes qui ont souffert de dipsomanie. C'est l'occasion d'apprendre ce mot barbare qui désigne la propension morbide à s'enivrer. Qui donc ? Eh bien, Billie Holiday, bien sûr. L'immense voix du jazz qui, en une seule séance d'enregistrement, pouvait boire cul sec une ou deux bouteilles de gin et qui mourra d'ailleurs, la malheureuse, une cirrhose du foie en juillet 59. Judy Garland, vidée de sa société de production, la MGM, alors qu'elle a 28 ans. Elle sombre dans la dépression, elle s'enferme dans son petit appartement où elle trompe le temps en buvant et en mangeant. Alcool et drogue la conduiront en cure de désintoxication. De même, Elizabeth Taylor, qui avait aussi tendance à forcer sur la bouteille. Grande alcoolique aussi, Marguerite Duras, qui se disait capable de siffler 6 à 8 litres de Bordeaux par jour. Et elle avoue avoir commencé à boire par désespoir amoureux. C'est souvent comme
toujours,
ça que ça commence. Toutes ces femmes furent d'invétérées alcooliques. Mais celle de ces buveuses, qui des années durant filaient chou gras des tabloïds et des paparazzi, et incarne à elle seule le prototype de l'alcoolique mondaine, et ben c'est la princesse Margaret d'Angleterre, la sœur de la reine Elisabeth.
Alors, c'est vrai ça, Stéphane ?
Elle était jamais alcoolique, elle buvait. Quoi.
Oui, ouais. Alors, chez les Windsor, oui, les dames ont toujours eu tendance à lever un petit peu le coude. Queen Mum, la mère de Margaret et Elisabeth, ne faisait jamais l'impasse sur son cocktail de midi à base de gin et ses deux verres de champagne au dîner. Mais jusque-là, ça reste extrêmement raisonnable. Mais la seule de ces ladies dont la consommation soit finalement devenue franchement problématique, et la princesse Margaret, je veux bien que vous vouliez défendre l'image de marque de Royal Majesty.
Vous savez comment elle faisait, parce que il m'est arrivé de la côtoyer. elle, on lui servait un verre de vodka ou de gin, je ne sais pas, parce que c'était transparent. Et dans le verre, autour du verre, on mettait une serviette. Et donc, on lui disait... Votre Coca-Cola ou votre... on ne voyait pas ce qu'elle voyait, mais on savait
non, mais
très
vous,
bien.
Vous avez vu le faucheton quand même. Je commence c'est à dire moi. Ça dit mais non, mais pas du tout. Et après, il vous raconte une anecdote plus vraie que nature. Bon, alors, est-ce que c'est pour avoir dû renoncer à épouser son grand amour de jeunesse, le héros de guerre Peter Townsend? Est-ce que c'est là la clé de son mal-être? À la suite de ce drame intime, elle semble ne jamais plus avoir été pleinement heureuse. Lentement mais sûrement, elle va noyer son chagrin dans l'alcool. Sa marque de whisky préférée est The Famous Grouse, un whisky au demeurant assez bas de gamme dont elle exigeait d'avoir une bouteille dans tous ses déplacements officiels ou privés. Elle le buvait with a dash of water, avec un trait d'eau minérale, de préférence écossaise. Malheur à qui aurait oublié le Famous Grouse de la princesse. Bon, la Grouse, je signale au passage que c'est un volatile entre le coq de Bruyère et la gélinotte, pour ceux qui se poseraient la question. En être privé pouvait la rendre très désagréable. Dans sa morning routine de 1955, elle commence sa journée en fumant dans son lit. Elle fume jusqu'à 3 paquets de cigarettes par jour, des Chesterfield. À midi, vodka. À 13h. Alors ça, c'est l'heure à laquelle nos cocos, là, David et Olivier, eux, ils prennent leur viandox. À 13h, déjeuner avec sa mère, avec une demi-bouteille de vin par personne. Et en dehors de chez elle, gin, mais surtout Famous Grouse. Et lorsqu'elle est chez elle, pour éviter de passer son temps à chercher du feu et pour pouvoir boire en même temps qu'elle fume, elle colle des boîtes d'allumettes sur des verres. Et oui, en 84, elle trouve enfin le courage d'arrêter de boire, ayant contracté une hépatite.
Ah oui, mais ça
aide
à arrêter.
Elle continue à fumer comme un pompier. Ouais. 30 ans de tabagie et d'alcoolisation à outrance trouvent hélas leur amère punition. Ouais. Laryngite, migraine, infection de la gorge, bronchite, gastro-entérite, pneumonie et ablation d'une partie du poumon en 1985. Malgré cela, Margaret n'arrêtera de fumer que 5 ans avant sa mort. Retirée de la vie publique, elle finit sa vie recluse dans sa propriété de l'île Moustique et meurt en 2002 à Londres à 72 ans des suites d'un AVC. Pour elle, comme pour toutes les grandes buveuses, l'alcool, selon la formule de Georges Bernard Shaw, aura été toutes ces années le puissant anesthésique permettant de supporter l'opération de la vie.
C'est beau et triste à la fois.
C'est ça, noyer son chagrin dans l'alcool. En même temps, on ne voulait pas que ça finisse gaiement. Oui. Si, il y a ceux qui ont l'alcool gay, que ça rend pompette, et ceux qui, au contraire, sont désespérés.
Stéphane est un peu comme ça. Il a l'alcool très, très gay.
Vous aviez fait cette émission-là.
Les recettes pompettes.
Ah oui, c'était d'ailleurs le premier, le pilote de l'émission qui est devenu culte ensuite. Oui. Bah écoutez, boire pour oublier, c'est ce que nous allons faire avec le quiz qui arrive, mais avec modération bien sûr.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Ses connaissances musicales ne sont pas exceptionnelles. Loin de là, on l'a encore constaté dernièrement.
Mais Francky Vincent, ce n'est pas ce chanteur qui est l'idole des dames.
C'est Franck Michael, vous confondez.
Écoutez, oui. Oui.
Heureusement, Clémentine Portier-Kettenbach est beaucoup plus forte en histoire. Ça tombe bien. Jouons à Burn to Be Alive. Vous vous situez maintenant, Francky Vincent.
Excusez-moi, je suis pas mauvaise en musique. C'est sur les sciences, la géo, tout ça, je suis nul.
Vous connaissez pas Francky Vincent, franchement.
Ah bah ça, oui, je regrette.
C'est bien la peine de connaître Billy Holiday quand on ne connaît pas Francky Vincent.
D'accord.
Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Oui, hydratez-vous. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce petit verre?
Oui. Pourquoi mettez-vous un mouchoir autour du verre?
Il
prend des verres en carton délibérément pour qu'on voit pas ce qu'il boit.
Parce qu'on n'utilise plus le plastique.
Ça doit
la
être
réponse
ça.
À tout.
Stéphane, vous êtes un peu le Teddy Riner de l'histoire, c'est-à-dire un champion. Champion.
Oui.
Toute catégorie.
Comment dire, au talon d'Achille.
Non. Bah, oui, parce que vous êtes le Teddy Riner de l'histoire. Par contre, en préhistoire, vous êtes plutôt en Milocon.
Ah oui, ça, oui.
Et alors, en proto-histoire, qu'est-ce que c'est déjà? Eh bien, c'est ma question. Ce mot désigne la période qui se situe justement entre la préhistoire et l'histoire. Vrai ou faux?
Faux.
Top, top, ça a fusé, faux.
Ah oui, c'est avant, proto-histoire, c'est bien avant.
Ça signifie avant. Donc, c'est avant la préhistoire, la proto-histoire, vous croyez? Est-ce que c'est pas justement avant l'histoire? Ben non, c'est la préhistoire.
Non, c'est la proto, c'est avant.
C'est avant la préhistoire.
Ça serait la pré-préhistoire, voilà, c'est ça que vous voulez dire. C'est donc vous répondez faux.
Oui.
Vous avez gagné.
Vous trouvez peut-être ça curieux, mais Stéphane a gagné.
Quand on... Ah oui, pourquoi est-ce qu'on parle d'un site proto-celtique et pas d'un site pré-celtique à ce moment-là?
Ça va trop loin pour moi. Mes méninges ne sont pas prêts.
Écoutez, répondez déjà aux questions qu'on vous pose.
On se lâche. Alors oui, c'est faux, on désigne comme proto-histoire la période de peuplement, mais avant l'écriture, c'est-à-dire du néolithique, à l'âge de fer.
Bah, c'est après la préhistoire, alors.
Non.
Non.
Bah, c'est... Si c'est avant l'histoire, c'est le début de l'écriture. Où situez-vous la proto-histoire par rapport à la préhistoire? L'histoire étant l'apparition de l'écriture.
Bon, non, la préhistoire, c'est pas l'écriture.
Non, c'est l'histoire. L'histoire l'écriture commence donc, avec le début d'écriture.
Donc, proto-histoire, donc, c'est avant la préhistoire.
Écoutez, de toute façon, la question était pour Stéphane. Question numéro 2. Pour vous, là, vous pouvez parler tout votre sou. C'est lorsqu'il y a trop à dire qu'il faut s'efforcer d'être le plus court possible. Le légendaire Cambronne l'avait compris avant moi. Un très bel hommage de Bernanos au général. Mais est-ce que Cambronne aurait pu boire un grog?
Alors je pense que Cambronne aurait tout à fait pu boire un grog, car c'est un officier de la marine anglaise qui a inventé le grog. Et le mot grog, parce qu'il s'est rendu compte que le thé additionné d'un petit peu de ratafia et de citron évitait le scorbut aux marins, et le mot grog lui-même vient du tissu dans lequel étaient fabriqués les cols marins de la marine anglaise, qu'on appelait du grosgrain. Du grosgrain est devenu le nom, le grog, du nom de la boisson qu'il avait mise au point et imposée à bord des bateaux anglais.
Et alors, qu'est-ce que vous répondez?
Et toc avec votre préhistoire. Donc, quelle est la question?
La question, est-ce que Cambronne aurait pu boire du grog?
Donc, je dis oui, j'ai dit oui, il aurait pu boire du grog.
Vous avez gagné!
Stéphane, je suis au regret de vous annoncer qu'avec cette réponse vraiment très complète, elle marque 2 points. Deux points d'un nanané, coup pour Clémentine
votre réputation est
d'Artagnan à la récré.
Vous pensez qu'il me confierait jamais, on me confiera jamais question pour un champion? Mais
non,
sérieux.
Bien sûr que non, vous.
Ah, c'est dommage. J'aurais aimé.
C'est à la tête du client.
Oui, c'est comme ça. Mais là, c'était intéressant quand même, tout ce qu'on a eu comme
c'est
info.
C'est intéressant, mais c'est la moindre des choses qu'elle connaisse.
C'est la moindre des choses.
Oh, la moindre des choses, dites donc.
Alors, le grog a été inventé par un amiral anglais, Edward Vernon, en 1740. Pour que ses marins boivent moins de rhum, il dilue la boisson avec de l'eau chaude. Et le général Pierre Cambronne est mort, lui, en 1840. Il a pu boire un certain nombre de grog. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. À cheval entre le 19e et le 20e siècle, Georges Méliès est considéré comme l'un des précurseurs en matière d'effets spéciaux cinématographiques. Il a également fait un petit film coquin dans lequel il y a un trucage. On peut donc considérer que c'est le premier à avoir fait un effet dans ce genre de film. Et si c'est vrai, je vous donnerai le titre du film, qui est très très drôle. Mais
oui,
est-ce
vrai.
Que c'est vrai?
C'est vrai. Alors, je vais vous dire, il a fait plein de choses, Méliès. Il a tourné des films, et vous savez, parce que c'est l'époque où, justement, on faisait plein d'expériences. J'ai vu ça, puisqu'on était au moment de l'exposition, juste après l'exposition universelle de Paris 1900. Je crois qu'il a fait des choses coquines dans des films.
Et est-ce que c'est pas justement le coucher de la mariée?
Oui,
non,
je crois que c'est le premier film un peu coquin qu'il ait réalisé. Donc je dis oui.
Vous avez gagné.
On peut dire qu'il a touché à tout, Méliès.
Ah oui, bien sûr.
C'est ce qu'on peut dire. C'est donc 1 point pour Stéphane Bern. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Calvin Coolidge a été le 30e président des États-Unis. Un peu tombé dans les oubliettes d'ailleurs, et c'est injuste, car si on en croit les archives, eh bien on peut dire qu'il est sûrement l'un des présidents qui a le plus travaillé pendant son mandat. Vrai ou faux?
Je n'arrive pas à situer Calvin Coolidge. Est-ce que c'est un président de la fin du 19e?
Je pense.
Est-ce que c'est pas celui qui a été envoyé en prison? Non, il y en a un qui était un peu un truand, qui n'a pas dû faire son mandat entier. C'est pas celui-là? Alors je réponds, je suis l'intuition de Stéphane.
Je pense
prenez
que
vos responsabilités.
Le plus glandeur, oui.
Qui a fait de la prison, me semble-t-il même. Hein. Est-ce que c'est celui-là? Alors je réponds non. Il doit être celui qui en a le moins fait, au contraire. Ça serait plus marrant en plus.
Vous avez gagné.
Je vous raconte pas le micmac avec la régie pour essayer de vous déstabiliser. Vous avez quand même gagné. C'est gagné. Alors, c'est faux. Vous avez effectivement deviné. C'était même l'inverse. Je vous ai demandé s'il était le président des États-Unis qui avait le plus travaillé durant son mandat. Il est celui, probablement, qui a travaillé le moins. 4 heures par jour maximum. Il était dépressif, hein, le pauvre bichon. Et son passe-temps préféré, c'était la pêche. Il aimait bien piquer les mains de ses gardes du corps avec des hameçons. On peut le comprendre, il y avait des rumeurs de tromperie de sa femme avec les gardes du corps. Et vu que c'est Stéphane qui a donné la réponse, c'est vrai.
Oh, bah dites donc, j'ai commencé par dire est-ce qu'il a fait un burn-out ou une nervous breakdown.
Que
j'ai...
vous aviez donné non, deux dites donc. Alors qu'elle avait donné des réponses, donc en fait, c'est on est à égalité.
On est à égalité. Désolé, cher monsieur, pour votre timing. Là,
une balle dans le pied. Voilà. Vous êtes à égalité. Nous allons passer à la question 5. C'est tout ce qui compte. Ça a été un peu laborieux aujourd'hui, le quiz. Au 9e siècle, à l'est de l'Inde, on a construit un temple à la gloire de la déesse Bharahi. Il était de tradition ancestrale qu'on offre à cette divinité un sacrifice humain par an.
Ah,
ça va vous plaire, Stéphane.
Oui, j'adore ça.
Ces dernières années, on a organisé une fête spéciale pour remplacer la funeste cérémonie. Quel est le programme de cette fête annuelle? 3 propositions. C'est une bataille de cailloux, du coup ça fait mal. C'est une bataille où l'on s'asperge d'urine, du coup ça ne sent pas très bon. Ou c'est une bataille où on joue au Monopoly, du coup on s'ennuie.
2.
2. Alors ça, c'est intéressant, Stéphane.
Faut que ça fasse mal.
Moi, j'ai dit caillou. Alors, là, caillou, vous avez dit urine.
Pour vous,
mal.
Oui, non, à l'heure actuelle, dans l'Inde, on s'asperge d'urine.
Non, pardon. Je voulais dire caillou. Non, je me souvenais plus, c'était caillou ou urine.
Vous pensez qu'on s'asperge d'urine directement caillou, où on fait des provisions avant et ensuite on balance le produit de ces provisions sur la poule.
Je pensais à caillou, pardon.
Vous pensez
pardon.
À caillou.
Je pensais à caillou.
Alors, quand vous pensez caillou, il faut dire caillou.
Caillou.
Sinon, si vous dites urine, on entend urine. Alors donc, non, c'était effectivement l'histoire de la bataille de caillou. C'est une victoire.
Ah non,
pour Clémentine Portier
Kaltenbach. Je commence à m'embêter dans ce quiz.
Victoire,
oui, c'est... Oui. Être trop... Oui.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, 2 heures d'histoire endiablée avec l'angélique Stéphane Bern. Chaque après-midi, 3 personnages, 1 point commun. Aujourd'hui, Stéphane, on part à la rencontre de 3 femmes qui ont touché le fond. Un peu comme nous quand vous aviez chanté « Père du Panlou ».
Le père du Panlou au Parlement, on se conduisit comme un garnement. Il monta jusqu'à la tribune pour exhiber la peau de ses burnes.
Mais c'est pas grave de toucher le fond, ça peut arriver. L'important, c'est de trouver la force de remonter la surface, Stéphane.
Bien sûr, Mathieu, même si nos personnages du jour n'ont pas touché le fond au sens figuré, mais au sens propre, le fond de l'océan. Après la pionnière dame de mer Anita Conti, je vous raconte maintenant l'exploratrice et aventurière américaine qui a vraiment touché le fond de l'océan, Sylvia Earle. Quant à vous, Mathieu, jugeant l'océan trop grand pour vous, vous avez choisi de limiter vos recherches à la piscine.
Oui, c'est mieux pour moi. J'ai trouvé une femme qui a déjà touché le fond de la piscine, Isabelle Adjani.
J'ai touché le fond de la piscine.
Vous savez, on l'a dit diva, mais vous voyez qu'elle n'a pas eu une vie facile. Hein.
Oui, à l'instar de nos fidèles chroniqueurs, Mathieu, qu'on a quasiment sorti du ruisseau.
Ah oui.
David Castel-Lopez qui nous raconte les origines du dico.
Oui, oui, ça ira vite, hein, je vous dis, il n'y a pas grand-chose à dire, mais je compléterai avec des choses très intéressantes.
Ah, certainement, avec des histoires comme celle du microscope, par exemple, où le dictionnaire aurait joué un rôle dans votre jeunesse. On a hâte. Olivier Poul, c'est avec nous également pour nous raconter l'histoire d'une pistache. Oh, oui. Oh là là, t'avais bien soigné ton intro.
Ouais,
hein.
Pas mal, hein.
Pas mal.
D'où vient la pistache? Du pistachier,
de Grèce,
probablement.
Du pistachier, mais
il y en a beaucoup.
D'où vient le pistachier? Il vient pas de Grèce.
Enfin, qui touchera le fond de la piscine dans sa petite chemise wrinkle-free? C'est certainement David. Mais faisons mine d'entretenir le suspense. La lutte finale, notre quiz d'histoire fratricide, ce sera vers 6h moins le quart. Pour l'heure, enfilez masque et tuba et inclinez-vous devant celle qu'on appelle Son Altesse des Profondeurs.
J'adore.
Je sais, Stéphane, mais elle, c'est sous l'eau que ça se passe. Elle est une océanographe de légende et cela de son vivant. Car à aujourd'hui 86 ans, cette exploratrice continue sa mission. Stéphane Bern enfile sa combinaison et ses palmes et nous raconte celle qui a vraiment touché le fond de l'océan, Sylvia Earle.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes en 1979 à Hawaï, au large de l'île Oahu. Sur une plateforme flottante, un engin de forme humanoïde attaché à un petit sous-marin jaune tangue au rythme de la houle. Cet imposant équipement qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction est un scaphandre autonome, un gym suit comme disent les Américains, une combinaison individuelle de plongée atmosphérique.
Il était spécialement conçu pour la plongée sous-marine en eau profonde. Son épaisse carapace peut supporter l'énorme pression qu'exerce la mer à plus de 600 mètres de profondeur. À l'intérieur, il y a une femme. Elle s'appelle Sylvia Earle, 44 ans, et célèbre océanographe américaine. Visage engageant, un peu comme celui d'un enfant, les yeux vifs, alertes, d'un brun profond. Sa mâchoire, elle, rappelle celle de Katharine Hepburn, dira le Times en 1998. Engoncée dans cet énorme scaphandre, elle est tout sourire. Descendre à de telles profondeurs ne l'effraie pas. C'est elle d'ailleurs qui en a eu l'idée. Elle qui a voulu utiliser cet équipement jusque-là réservé à l'industrie du pétrole offshore à des fins scientifiques. Sylvia enfile son masque à oxygène. Puis l'énorme casque de la combinaison se referme sur elle. Le temps de faire les derniers réglages, ça y est, le sous-marin plonge. Attaché à l'arrière du véhicule d'exploration, Sylvia Earle est lentement propulsée vers les profondeurs. 10 mètres. 20 mètres. 50 mètres. À mesure qu'elle avance, la lumière du jour décline. Bientôt, il fait presque noir. 100 mètres. Au-delà de cette limite, les rayons du soleil ne filtrent presque plus. 200 mètres, 250, 300, 350, 380 mètres. Voilà le fond de l'océan. Le sous-marin se pose. Dans son scaphandre, Sylvia Earle se désolidarise du submersible au mât duquel flotte le drapeau américain. Elle pose le pied sur le sol. Avec la même solennité, la même lenteur que Neil Armstrong sur la Lune, la même émotion sûrement aussi. Entre elle et la surface, il y a la hauteur de l'Empire State Building. Elle marche là où nulle femme n'a encore jamais marché, sur le plancher océanique à plus de 300 mètres sous la surface de l'eau. C'est la toute première fois et la dernière que quiconque plonge à une telle profondeur sans une attache vers la surface. Le moment est historique. Sylvia Earle reste 2 heures à cette profondeur. Il faut dire que les séjours prolongés sous l'eau ne l'effrayent pas. En 1970, soit 9 ans plus tôt, elle a vécu 2 semaines sous la surface. 2 semaines à la tête d'une équipe de 5 femmes aquanautes immergées pour la science dans un complexe sous-marin des îles Vierges. Le projet s'appelle TECTIT 2, un programme de recherche de la NASA, largement médiatisé à l'époque. Les Américains se passionnent pour cette aventure. 15 jours à 15 mètres sous la surface. Leur vie dans le complexe fascine. Elles ont tout le confort d'un appartement moderne, un frigo, des lits, des fauteuils, une télévision, mais avec un trou dans le plancher, un trou avec accès direct au monde des poissons et des coraux. Ce monde dans lequel elles passent le plus clair de leur journée, parfois 10 à 12 heures par jour. Depuis cette époque, Sylvia Earle n'est plus une inconnue aux yeux de ses compatriotes. C'est une héroïne des océans, une exploratrice, une scientifique, une amoureuse de la mer et surtout, une ardente militante pour la défense des océans. Ce parcours hors du commun commence, comme c'est souvent le cas, par un coup de cœur d'enfant. Sylvia Earle a 12 ans quand elle quitte son New Jersey natal pour la Floride. Ses rivages éclatants, la mer translucide du golfe du Mexique. Ce décor paradisiaque devient son jardin, son backyard, comme elle le dit elle-même. Laissée libre d'explorer par ses parents, une mère infirmière et amoureuse des animaux, un père ingénieur, Sylvia se passionne pour la faune et la flore qui peuplent l'immensité au-delà de ce rivage qu'elle côtoie tous les jours. Jeune adulte, Sylvia Earle se lance donc dans des études de biologie marine et finit par obtenir un doctorat en 1966. Elle a 30 ans. Elle travaille un temps comme chargée de recherche à l'université d'Harvard, puis obtient le poste de directrice résidente au laboratoire marin de Cape Hayes en Floride. Des casquettes, elle en portera beaucoup d'autres. Et ce, en parallèle d'une vie de famille bien remplie. 3 enfants, des maris successifs, elle est conservatrice des collections de phycologie, l'étude des algues à l'Académie des sciences de Californie à partir de 1979, membre l'année suivante du Comité national américain sur les océans et l'atmosphère. Ce même comité dont elle deviendra directrice scientifique 10 ans plus tard. En 1982, puis en 1992, elle fonde 2 entreprises d'ingénierie marine. C'est pas fini. En 1998, à l'âge de 63 ans, elle devient également exploratrice à demeure pour le National Geographic. Car son temps le plus précieux, Sylvia Earle ne le passe pas entre 4 murs, mais sur le terrain, le sien, c'est-à-dire sous l'eau. À l'heure où je vous parle, en 2021, Sylvia Earle, qui a maintenant 86 ans, comptabilise 7000 heures de plongée sous-marine, soit un cumul de 291 jours passés sous l'eau.
océan Atlantique, Pacifique, Indien. Elle les a tous explorés, tantôt en combinaison de plongée ou à bord de sous-marins capables de descendre à des profondeurs abyssales. Comme en 1986, dans les Bahamas, à bord du Deep Rover, un engin capable de descendre à 1000 mètres sous la surface et que de sa propre entreprise a conçu et construit de telles expéditions. Elle en a mené près d'une centaine au cours de sa vie. Pour mieux faire connaître l'océan, ses mystères, ses mécanismes et surtout, son importance capitale pour la planète, le combat de sa vie. Nous faire connaître l'océan pour nous le faire aimer, car comme elle l'explique, il faut l'aimer pour avoir envie de le sauver. Aujourd'hui encore, infatigable, inébranlable, cette vieille dame de la mer, son Altesse des profondeurs, Her Deepness, disent les Américains, parcourt le monde sans relâche pour parler de l'océan. 300 jours par an, elle donne des conférences, de l'aube jusqu'au soir, comme elle l'explique dans le documentaire qui lui est consacré sur Netflix, Mission Blue. L'occasion de découvrir plus en détail le destin hors du commun de cette grande dame de la mer, admiratrice du commandant Cousteau, et qui, comme lui, est devenue une légende vivante. Comme l'homme au bonnet rouge, elle a elle aussi un Lego à son effigie.
Europe 1, historiquement vôtre.
Un jour aussi, Stéphane, vous aurez un Lego à votre effigie, je vous le souhaite. Mais pour parler un peu plus encore de Sylvia Earle, nous sommes avec l'océanographe François Sarano.
Bonjour.
Bonjour François Sarano, vous êtes océanographe, plongeur professionnel et vous avez été chef d'expédition pendant 13 ans à bord de la Calypso du commandant Cousteau. Sylvia Earle, c'est un peu la Madame Cousteau des Américains ?
Oh oui, c'était la Madame Cousteau parce qu'elle est merveilleuse et enthousiasmante. C'est pas simplement parce qu'elle a fait des expéditions extraordinaires qui ont apporté du savoir, c'est parce qu'elle savait communiquer ce qu'elle vivait sur le terrain. Et comme elle le disait justement, et comme Cousteau le disait, il faut aimer pour pouvoir s'intéresser et protéger. Et c'est ce qu'elle savait faire de mieux, nous entraîner avec elle pour nous faire aimer l'océan.
Mais alors, il y avait effectivement ce côté faire savoir et nous faire aimer l'océan, mais ces expéditions, les expéditions de Sylvia Earle, elles ont contribué quand même à renouveler le savoir sur l'océan. Dans quelle mesure ?
Dans quelle mesure ? Mais c'est simple, on ne connaissait rien à l'époque sur l'océan. Et le seul fait d'aller vivre 2 semaines sous la mer, bien que d'autres personnes avaient aussi vécu, déjà un peu auparavant, et elle apportait des connaissances que nul autre ne pouvait avoir. Parce que pour connaître, il ne suffit pas de disséquer et de décrire les animaux. Il faut vivre avec. Et au cours du projet Tectique, par exemple, elle a vécu avec les poissons. Donc on comprend toutes les interactions que ces animaux tissent avec le milieu. Et c'est ça, connaître la vie.
Oui, mais enfin, François, on a quand même du mal à imaginer ce à quoi peut ressembler une maison sous l'eau. Alors, on a besoin de quelques explications.
À une maison sous l'eau. Alors moi, je n'ai jamais vécu sous la mer. Par contre, j'ai beaucoup, beaucoup parlé avec mon ami Albert Falco, le premier homme à avoir vécu sous la mer en 1962, pendant une semaine, et puis en 63, pendant un mois. Et il disait une chose, les premiers jours, on est oppressé. Parce que cette maison, c'est une sorte de cloche retournée qui est directement ouvert et sous pression et ouvert sous la mer. Il y fait très humide, il y fait parfois très chaud. Et c'est oppressant, c'est difficile. Et tout d'un coup, après quelques jours, alors, on est poisson parmi les poissons. On est libéré de toutes les contraintes de la plongée, les contraintes physiologiques qui imposent de faire des paliers de décompression avant de remonter en surface. Et on peut sortir quand on veut, de jour, de nuit, et vivre avec les poissons. Ce qui est formidable dans ces maisons, qui sont, il y avait la télé, vous disiez, mais c'est quand même très 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 sobre. Il faut imaginer, c'est très restreint, c'est très sobre, on est enfermés les uns sur les autres. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est que le jardin est accessible en permanence, et qu'on peut, sans rien faire de peu particulier, aller nager avec les poissons.
François Sarano, vous explorez les mers et les océans depuis les années 70 maintenant. Qu'est-ce qu'on découvre quand on plonge dans l'immensité de l'océan comme ça ? Qu'est-ce que le monde sous-marin a à nous apprendre ?
Eh bien, le monde sous-marin, c'est notre dernier grand territoire sauvage. Et j'insiste sur le mot sauvage. C'est un endroit où on approche les poissons, les grands cétacés, les géants de la planète, les grands requins, les grands prédateurs, sans qu'ils nous fuient. Ils n'ont pas peur de nous. Et nous pouvons nous mêler à eux comme si nous étions l'un des leurs. Hein ? Il suffit d'être un peu patient, respectueux, bienveillant, humble. Et alors, on vit avec eux. Et c'est très difficile à faire à terre. Les grands prédateurs ont disparu. Les grands animaux sauvages, eh bien, nous fuient. Tandis que là, on comprend leur vie parce qu'on la partage. C'est ça la vraie clé, la vraie richesse de l'océan.
Et dans le même temps, vous avez vu l'état des mers et des océans se dégrader au fil de vos expéditions ces 50 dernières années, non ?
Alors, oui, dégradation, j'ai vu disparaître les requins lorsqu'on se mettait à l'eau, quand j'étais à bord de la Calypso, tout de suite il y avait des requins qui montaient, ce temps est révolu, les requins sont massacrés et il n'y en a presque plus. Mais j'ai aussi vu revenir les grands cétacés. Les baleines, les cachalots. Lorsque dans les années 80, on me demandait de plonger avec des cachalots, je disais, mais c'est impossible. Les derniers survivants nous fuyaient. C'était la fin de la chasse à la baleine et au cachalot. Aujourd'hui, on se met à l'eau. Et ce sont eux, les cachalots, qui viennent nous voir. Parce que l'arrêt de la chasse, les bonnes mesures de protection ont permis leur retour. Ils sont aujourd'hui hors de danger d'extinction. Et puis on a vu les réserves marines. On a Port-Cros en France, qui est formidable. On retrouve à Port-Cros la richesse de la Méditerranée des années du début du XXe siècle. C'est ça qui est formidable. La mer est résiliente. On doit compter sur elle. Il faut prendre des mesures de protection parce qu'on gagne à tous les coups. La mer revient.
C'est ce que vous dites dans votre livre « Réconcilier les hommes avec la vie sauvage » paru chez Actes Sud. Vous racontez que l'océan nous offre une belle leçon de résilience.
Formidable, parce que grâce à ces courants marins formidables, eh bien, en permanence, il réenrichit les eaux de surface dans lesquelles peuvent se développer les algues, et toute la vie marine profite de ces richesses, de ce développement planctonique. Et puis, les poissons pondent des milliers d'œufs qui sont transportés par les courants et viennent réenrichir les zones exploitées. Donc, cette résilience qui est liée à des facteurs physiques et à des facteurs biologiques, nous pouvons en profiter. Encore faut-il que nous prenions les bonnes mesures. Encore faut-il que nous arrêtions d'agresser. Mais quand on prend ces mesures, alors la vie revient en abondance et en diversité.
Alors justement, François, Sylvia Earle, dont on parlait, a beaucoup sensibilisé le grand public. Elle continue à alerter sur les périls qui menacent la biodiversité marine. C'est aussi ce que vous vous attachez à faire avec votre association, Longitude 180. C'est quoi vos principales actions ?
Alors les principales actions, eh ben, c'est comme Sylvia Earle, c'est comme Cousteau le savait vraiment. D'abord, il faut que les gens aiment la mer. Donc il faut sensibiliser. Il faut les entraîner à la fois sur le terrain et dans des récits nouveaux qui les passionnent. Parce qu'on ne peut protéger que si on connaît. Ça, c'est une certitude. Après ça, eh bien, nous avons donc beaucoup de conférences, de livres, on va dans les écoles. Donc, on est avec les gens et on raconte ce qu'on vit sur le terrain. Ensuite, on a des recherches scientifiques, en particulier sur les grands cétacés, d'acoustique, de génétique, qui nous permettent de bien expliquer ce que sont ces animaux si différents, ces aliens. Et enfin, nous avons des combats qui se déroulent sur le plan juridique ou sur le terrain. Notre association s'enorgueillit de la protection des requins en Polynésie française. Dans les années 2003-2007, nous avons poussé le gouvernement à préserver l'ensemble des requins de cet immense territoire marin. Et si aujourd'hui on voit des requins là-bas et qu'il n'y a pas eu de massacre pour les ailerons de requins, c'est grâce à notre association en grande partie.
Ben bravo. Mais est-ce que chacun d'entre nous peut agir individuellement au quotidien pour la préservation des océans et de la biodiversité ?
Bien entendu. Alors, il y a deux choses à faire. La première chose, c'est d'arrêter de l'agresser. Comment l'agresse-t-on lorsqu'on habite Valence, comme moi, ou Clermont-Ferrand, ou Paris, alors qu'on est loin de la mer ?
Oui.
Eh bien, simplement, en utilisant des produits de vaisselle, de shampoing, qui sont toxiques pour l'océan. Donc, il faut changer. Il y a des tas de recettes très simples pour éviter d'agresser avec ces produits chimiques qui tuent les animaux vivants. On peut utiliser directement des savons. Enfin, il y a des tas de recettes qu'on peut retrouver. Mmh. Et d'ailleurs, avec mon épouse, on a écrit un livre qui s'appelle « Sauvons l'océan, les 10 actions pour réagir ». On donne des tas de recettes là-dedans. C'est la première chose à faire. Arrêtons d'agresser. Ouf, et le plancton ira mieux et la vie pourra se redévelopper. Et puis, il faut changer notre comportement de consommation. Savoir que le poisson merveilleux est rare. et que chaque fois qu'on en mange peu, c'est un trésor, il ne faut pas banaliser ça. Il faut éviter les poissons d'aquaculture, qui sont des poissons que l'on nourrit avec du poisson qui est pêché au large, donc c'est assez catastrophique. Et il faut privilégier les espèces comme les sardines, comme les maquereaux, ou par exemple les huîtres ou les moules, qui sont des animaux qui sont plus bas dans la chaîne alimentaire et qui peuvent être consommés en plus grande quantité sans dégrader trop l'océan.
Bah écoutez, merci Mangeons beaucoup. Voilà. Merci François Sarano, nous avoir emmené comme ça avec votre enthousiasme légendaire dans les profondeurs de l'océan pour tous agir à notre échelle. Bah, je recommande effectivement votre livre « Sauvons les océans, les 10 actions pour réagir » coécrit avec Véronique Sarano, votre épouse, est disponible aux éditions Rustica. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque celles qui ont touché le fond de l'océan. Après Anita Conti et Sylvia Earle, vous nous brossez, Mathieu, le portrait, bon, à 99% vrai et surtout à 99% frais, d'une femme plus proche de nous qui, elle, n'a touché que le fond de la piscine. Bon, enfin, c'est déjà pas mal, hein, c'est un début.
Jouons franc jeu. On a tous eu, une fois dans notre vie au moins, des idées noires. Comme la fois Stéphane où les inspecteurs du fisc étaient venus jusqu'à Paros pour vous poser des questions sur vos investissements luxembourgeois. Après les avoir accompagnés, vous aviez néanmoins sauté dans la piscine sans vos brassards.
La vie m'est insupportable.
Heureusement, Kyriakos, votre valet crétois, vous avez repêché.
Kyriakos, c'est le premier ministre.
Oui, mais c'est aussi votre valet. Il vous avait repêché in extremis. Mon héroïne du jour, Isabelle Adjani, elle aussi a touché un jour le fond de la piscine dans un petit pull marine. Et comme vous, Stéphane, elle s'en est sortie. Une résilience qu'elle se forge, vous allez voir, très jeune. Isabelle Adjani voit le jour à Paris en 1955, selon Wikipédia, dans une année antérieure à celle-ci, pas si lointaine, mais je n'en dirai pas plus, selon Isabelle Adjani elle-même, qui refuse encore aujourd'hui de divulguer précisément son âge à la presse. Son père est un Français d'origine kabyle, sa mère une Allemande d'origine bavaroise. C'est d'ailleurs qu'à l'âge adulte qu'Isabelle découvrira qu'à la naissance, elle avait été baptisée Yasmina, choix de son père, pour se faire finalement appeler Isabelle sur le tard, suite à la pression exercée par sa mère. Pour la construction psychologique, ça n'aide pas. Imaginez Stéphane découvrir qu'à la naissance, vous n'aviez pas été baptisé Stéphane, mais Bernard Clovis.
Ah, j'adore.
Oui, bon, mauvais exemple. Isabelle, anciennement Yasmina, donc grandit dans un HLM à Gennevilliers, en région parisienne. Son père est garagiste, sa mère femme de ménage. L'ambiance à la maison est, disons, tendue. Isabelle raconte « Ma mère n'avait pas d'ambition spéciale pour moi. Par rivalité dans le féminin, elle n'avait pas réussi sa vie de femme. Elle ne devait pas trouver juste que je réussisse la mienne. Elle m'a retiré de mon cours de gym après m'avoir retiré de mon cours de danse, puis de musique. » Vous pouvez remettre la musique, voilà. Sa frustration immense, et Isabelle l'exprime d'une manière assez étonnante, proche de celle du personnage de Simon dans La Cité de la Peur.
Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content.
Et sauf que pour Isabelle, ben, c'est l'inverse. C'est quand elle est triste qu'elle vomit. Ce que je vomissais, raconte-t-elle, c'est peut-être une vie que je ne supportais pas bien ou un malheur que je ne savais pas exprimer. D'où son idée première de suivre un cursus en psychologie à la fac. Finalement, vous le savez, elle optera plutôt pour le théâtre et s'en sera fini, des vomitos. Car avant de devenir une icône du cinéma français, Isabelle fut une comédienne de théâtre surdouée. Dès l'âge de 12 ans, elle est sur les planches. Très vite, elle éblouit Robert Hossein. Puis, encore adolescente, elle irradie la scène de la comédie française dans le rôle d'Agnès dans L'École des femmes. Vous connaissez L'École des femmes, Stéphane ?
Jacques Martin.
Molière. Suivra une autre interprétation qui sciera les spectateurs du français, celle de Ondine, de Jean Giraudoux. Isabelle n'a pas 17 ans. À l'heure où nous galérions en LV2 pour prononcer de misérables phrases telles que « Mi amo, Mathieu Noël, señorita, tequiero, va bosser à la playa quand... » Mais Adjani parlait déjà couramment l'allemand, l'anglais et l'italien. Surdouée, vous dis-je. C'est en 1974 qu'elle crève l'écran pour la première fois dans La Gifle de Claude Pinoteau, film en forme de prémonition de ce que sera le quotidien des parents d'ados difficiles durant le confinement. La Gifle, un film qui a vraiment marqué une génération, mais pas autant, me disait Stéphane, que son remake X, La Bifle, film si excitant que son visionnage a tourné court pour beaucoup d'ados.
Le coup est parti tout seul.
Très vite, Isabelle Adjani devient plus qu'une grande actrice, un sex symbole. Elle semble magnétiser tous les hommes qui croient son chemin. Truffaut en tombe éperdument amoureux, il dira d'elle, évoquant le tournage de L'histoire d'Adèle H, film magnifique que je vous conseille, « La voir était une souffrance de tous les jours. Le soir, mes yeux et mes oreilles sont fatigués de l'avoir trop fortement regardée et écoutée toute la journée. » Tous les réalisateurs qui tournent avec elle semblent tomber amoureux d'elle, Stéphane. Tous, sauf Patrice Chéreau.
Ah, il était impuissant.
Non, il était gay. Mais il avait aussi une fascination pour Adjani. Il rêve pour elle d'un projet immense, d'une fresque historique. Il pense à Alexandre Dumas. Mais les Trois Mousquetaires, c'est trop fait, trop vu. On lui suggère alors la Reine Margot. Il découvre un roman dense. 672 pages d'amour, de tromperie, de violence, de trahison.
Et de consanguinité.
Oui, on dirait un été chez Stéphane Aparos.
Oh non.
Patrice Chéreau adore. Trois fois, il démarre la préparation du film. Trois fois, ça capote. Car Adjani, telle une girouette sous gouronzant, accepte le rôle, puis le décline, puis le réaccepte, puis non, puis oui, puis je ne sais pas. Avant, enfin, de trancher pour le oui. The yes, Stéphane.
Wow, yes, I yes,
yes. Yes, yes, yes. Sur le tournage, aussi épique que le film lui-même, Patrice Chéreau s'emballe un peu. La première version du film fait 4h30. Elle sera finalement condensée à 2h39, ce qui est déjà pas mal. Deux manières de résumer le film, la version chic et la version longue. La version choc et court, version longue. Avec orgue chiant. La Reine Margot est une fresque historique sur le massacre de la Saint-Barthélemy qui revient sur l'extinction des Valois du trône de France et s'inspire d'un roman feuilleton d'Alexandre Dumas consacré au mariage d'Henri de Navarre, futur Henri IV, avec Marguerite de France. Version courte, Margot ferait crac-crac en douce avec le marquis de la Mole, Henri IV, pas content. Au final, un chef-d'œuvre qui ne fait pas l'unanimité au moment de sa sortie en 1994, on l'a oublié, mais qui vaudra tout de même le prix du jury à Cannes à son réalisateur et le César à Isabelle Adjani, qui reste relativement mystérieuse humainement parlant. Il y a un côté Mylène Farmer chez Adjani ou Adjani chez Mylène Farmer, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qu'on a du mal à cerner. Diva pour les uns, meuf hyper simple et accessible pour les autres, difficile de savoir. Dominique Besnéard, qui a été son agent et que vous imitez à la perfection Stéphane, dit qu'elle est super sympa, de même que le réalisateur Romain Gavras, qui a carrément déclaré au sujet du film qu'ils ont tourné ensemble, sur le plateau, il y a des figurants qui étaient plus difficiles qu'Isabelle. Un autre réalisateur raconte qu'une fois Isabelle a même acheté des petits masseurs électriques pour les techniciens qui avaient mal au dos. Une anecdote qui mériterait, cela dit, d'être vérifiée et surtout analysée, car de mon temps, dans les pages de La Redoute, certains petits masseurs électriques dits pour le dos n'étaient en fait pas vraiment pour le dos. Bref, sympatoche, Laïsa. Pas envie donc de relayer les autres sons de cloche moins flatteurs, selon lesquels elle serait souvent en retard, aurait à ses débuts demandé aux journalistes de faire taire sa date de naissance, voire de leur demander d'écrire qu'elle était plus jeune qu'Isabelle Huppert, sa grande rivale. Tout ça n'est pas digne du portrait flagorneur que je m'étais promis d'écrire afin qu'Isabelle et Jenny restent toujours une reine dans nos cœurs, conclurait un journaliste de Télé Z, comme quoi une belle carrière mettant peut-être à Télé Z. Une chose est sûre, 26 ans après la Reine Margot, le cinéma français se cherche encore un talent du niveau d'Adjani. Je sais Stéphane que, grisé par vos succès d'audience dans Meurtre en Lorraine, vous avez postulé dernièrement au casting de la Reine Margot 2, où on vous a fait jouer au casting la peur face aux atrocités de la Saint-Barthélemy.
Ah, j'ai eu peur.
Indéniablement, la relève est là, le cinéma français peut respirer.
Merci Mathieu, c'était à 99% vrai, mais c'est toujours un plaisir de retrouver Isabelle Adjani.
Bien sûr, l'immense, immense Isabelle.
Merveilleuse. Et j'attends avec impatience Diane de Poitiers, là, elle va être magistrale en Diane de Poitiers.
On l'attend tous avec impatience.
Ouais. Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour. Au revoir. Ces femmes qui ont touché le fond de l'océan ou de la piscine, c'est selon.
Pour retrouver ceux qui n'ont pas peur de se jeter à l'eau non plus, Olivier Pouls, aujourd'hui, vous nous faites découvrir la pistache.
Oui, et pas qu'en glace ou à l'apéro. Oh,
moi, j'adore en glace, c'est ce que je préfère.
Moi, je préfère à l'apéro.
Lui, il n'abuse pas de la pistache, on peut le dire, sa ligne est parfaite. Il est svelte, c'est David Castello-Lopez.
Oui.
Il nous entraîne aux origines.
Il est obligé, parce que vu, il met du slim fit en chemise wrinkle-free.
Alors... Il est obligé de rester slim. Et aujourd'hui, il nous raconte l'origine du dictionnaire. Mm-hmm. Vous nous avez dit, c'est pas très drôle, mais je vais rendre ça drôle.
Oui, en parlant d'autre chose. Souvent, dans cette chronique, quand même, j'ai parlé des folklores perdus. Vous voyez, les cabines de téléphone devant lesquelles on faisait la queue, le bruit du modem, la sensualité des stylos-plumes. Et si j'en ai parlé autant de fois, c'est que toutes ces technologies caduques, elles me manquent un petit peu. Bon, après, je vis avec mon temps, c'est-à-dire que j'écris pas mes chroniques sur des machines à écrire parce que tu comprends, c'est un rapport complètement différent à la création. Je vais pas à Marseille en calèche sous prétexte que c'est cool de retrouver les charmes de la lenteur. Hein. Non, je prends le TGV, j'ai un iPhone, je vais sur Internet, tout ça. Et c'est pareil pour les dictionnaires. Les dictionnaires papier, c'est vraiment des choses, c'est comme les bottins, quoi. Vous voyez, c'est des choses dont l'existence paraît complètement dérisoire aujourd'hui. Parce que non seulement ça pèse plusieurs kilos, mais en plus ça se périme à la vitesse de l'éclair. Et donc il faut en racheter à chaque fois si on veut rester à la page. Du coup, comme pour tout le monde aujourd'hui, quand je dois chercher un mot, j'utilise les ressources d'Internet, quoi. C'est-à-dire qui sont actualisées en permanence. Puis en plus, qui pèsent rien du tout, hein, ça pèse 0 gramme. Mais tout ça, ça m'a quand même donné envie de chercher d'où ça venait cet objet caduque en tout cas dans sa forme papier. Et ben, j'étais assez déçu parce que j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant à dire sur les origines du dictionnaire. Apparemment, c'est pratiquement aussi ancien que l'écriture. On a retrouvé des mots, des listes de mots sumériens en cunéiforme à côté de leur équivalent acadien. Vous voyez, quand vous trouvez un ami acadien, voilà, vous pouvez faire vos petites traductions. C'est des tablettes qui ont 2300 ans.
C'est des dictionnaires de changement de langue.
Oui,
c'est des dictionnaires pour expliquer les
bilingues, en fait. C'est des dictionnaires bilingues et effectivement, il y a des dictionnaires monolingues. Et ben, j'étais aussi assez, petit truc étonnant quand même, ni les Romains ni les Grecs n'avaient de dictionnaire au sens où on l'entend nous, ni l'un ni l'autre. Ils avaient des petites listes de mots quelquefois, mais uniquement pour des mots un petit peu chelous et compliqués, vous voyez.
Donc pas cette idée de mots croisés, par exemple.
Non, vraiment pas, quoi. La première chose qui ressemble en fait au dictionnaire de l'histoire de notre civilisation, c'est un lexique grec des mots utilisés par Homère. Donc juste cela, vous voyez, pas d'autres. Et celui-là, il date du 1er siècle après Jésus-Christ, donc relativement récent en tout cas par rapport à ce que j'imaginais. Et sinon, le début des dictionnaires tels qu'on les connaît, c'est la Renaissance. Le premier grand dictionnaire en France, par exemple, c'est un dictionnaire français-latin qui a été écrit par un monsieur qui s'appelait Robert Estienne en 1538. Bon voilà, je pourrais faire la liste des grandes dates du dictionnaire en France, le Furetière, l'Encyclopédie, le dictionnaire de l'Académie française, le Robert, mais je vous assure que tout ça, c'est un peu ennuyeux. Alors vous allez me dire, pourquoi t'as choisi ce sujet?
Parce que t'aurais pu choisir un autre
voilà,
sujet.
Voilà, connard, je vous allais dire ça. Parce que
c'est dans le dictionnaire, mais quand même.
Ouais, je vous répondrai que c'est un peu grossier, mais ensuite je vous dirais que quand même, c'est vous avez un petit peu avancé dans votre connaissance du monde, parce que vous savez à présent que les origines du dictionnaire, elles sont assez ennuyeuses. Maintenant, j'ai une idée sympa pour terminer cette chronique. Il y a un seul dictionnaire papier que j'utilise encore régulièrement, c'est le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey, qui est en 3 volumes, il pèse 5 kilos, mais chaque entrée vraiment ouvre des super autoroutes de connaissances dans la tête. Et donc ce que je vous propose, c'est de vous faire une série de petites devinettes très sympas sur l'étymologie d'un certain nombre de mots tirés du dictionnaire d'Alain Rey et qui permettront aux auditeurs d'apprendre en s'amusant, ce qui me semble est le but de cette émission. Est-ce que vous êtes prêts?
On est prêts.
Ça fait longtemps que tu voulais faire un test où tu ne pourrais pas perdre.
Exactement, c'est vrai. Est-ce que vous savez d'où vient l'adjectif « facile » ?
C'est faire, faire.
Faire. Exactement.
Faire. Facile.
Facile. Facile. Faire en latin. Ce qui est facile, c'est que c'est ce qui est susceptible d'être fait.
C'est
ce qui est faisable.
Ouais. C'est faisable.
En fait, au départ, c'est le premier temps, c'est faisable. C'est quand même ultra intéressant. Voilà,
passionnant, mais oui. Un autre.
D'où vient le mot déconner?
Déconner.
Mais alors, conner, ça voudrait dire quoi? Con.
Non, déconner, ça vient. Alors, ça vient du con. Ça vient du con. Le con, c'est quoi?
C'est le sexe. C'est le sexe.
Déconner.
Sortir du con. Oh, exactement. Petite virgule.
C'est vraiment, on peut parfaitement dire, et d'un coup de rein, elle me fit déconner. Vous voyez?
Ah, ouais. On a le droit de le dire.
On a le droit de le dire. Ça s'utilise moins maintenant qu'au XVIIe siècle. Mais
il faudrait
on peut
le réintroduire, si j'ose dire.
Oui, tout à fait. Et pour finir, le mot salope.
Ah oui, ça vient, on se salissait. C'est le.
Non.
Si. La salopette, c'est le.
Alors peut-être la salopette, oui, mais la salope, en tout cas, disons que c'est pas certain comme étymologie, mais visiblement ça viendrait, c'est ce que dit le dictionnaire de historique de la langue française, de sale houppe, la houppe étant un oiseau qui est très sale. Donc salope, ça veut dire sale oiseau. Vous voyez, et je vais vous dire, le dictionnaire d'Alain Rey, moi, je l'utilise encore dans sa version papier, même s'il existe dans la version iPhone maintenant. Et la version papier, parce qu'il y a un plaisir encore plus grand, parce que quand on cherche sur la version iPhone, on ne trouve que ce qu'on cherche. Alors que dans la version papier, on trouve aussi tout un tas de mots qu'on ne cherchait pas. Par exemple, juste au-dessous de salope, juste au-dessous de salope, vous avez salpêtre, cette substance, vous savez, qui sert à faire à la fois des bombes et de l'engrais. Ouais. Et bien salpêtre, ça vient de sale, sel. Et pétra, pierre en latin. Le salpêtre, c'est du sel de pierre. Avouez que vous ne verrez plus jamais le salpêtre de la même manière.
En même temps, j'en vois pas souvent.
Ça arrive sur les murs, dans les caves. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Historiquement vôtre,
l'émission qui chaque jour vous fait découvrir l'origine de ces bons produits qu'on aime déguster. Parfois, à l'apéro, comme aujourd'hui, vous nous parlez de la pistache, Olivier Pouls.
Regardez l'heure, on commence à y arriver.
Ça fait longtemps que je la regarde.
On n'est plus tellement à l'heure de la glace à la pistache, on arrive plutôt à l'heure de ces petites
pistache aussi addictive. Et c'est un arbre à l'origine sauvage qui est cultivé depuis 4000 ans, tout de même en Mésopotamie. Il est arrivé ensuite en Grèce, vous l'avez dit tout à l'heure Stéphane, où il y a beaucoup de production de pistaches. Puis il a migré vers l'Italie assez tardivement, vers le 1er siècle de notre ère. Et la pistache est arrivée de l'autre côté des Alpes, c'est-à-dire chez nous, encore plus tard, mais on en cultive très peu parce que c'est un arbre qui a besoin d'un climat particulier, d'un climat assez chaud, d'un climat plutôt qui convient bien au pourtour méditerranéen. On peut en mettre un petit peu dans le sud de la France, mais globalement, on n'a pas un grand terroir à pistache. Alors la pistache, c'est là plein de légendes. On prétend que la reine de Saba exigeait que toutes les pistaches qui étaient cultivées en son royaume lui soient apportées pour être données à la cour. Le Moyen-Orient est resté une terre de prédilection pendant des siècles de la culture de la pistache qui s'avérait très intéressante d'un point de vue commercial aussi. On vendait cette pistache qui avait des vertus et gustatives et médicinales. C'est très très bon.
Ah oui, ça sonne quoi ? Ça soigne quoi ?
C'est très très bon de manger la pistache.
C'est bon ?
C'est plein d'oligo-éléments, c'est plein de...
Il faudrait... Ça fait grossir, non ?
Alors, c'est gras, c'est un oléagine. Hein, voilà, c'est ça, exactement. On en fait de l'huile, d'ailleurs. Hein. Oui. On fait de l'huile de pistache.
Et donc, ça fait grossir, vous confirmez ?
Eh oui, je confirme qu'il y a pas mal de calories. Mais une petite poignée de temps en temps de pistache, c'est extrêmement bon pour votre santé.
Mais c'est quoi une poignée ? Ça dépend de la taille de votre poing. Ouais. Ouais, une poignée de pistache, main, ça fait beaucoup de pistache, quand même.
Voilà. Hein. Alors, les variétés les plus connues sont les pistaches d'Iran, de Bronte en Sicile, ou encore d'Alep en Syrie. Aujourd'hui, l'Iran et la Turquie... ainsi que les États-Unis, figurez-vous, sont les trois pays principaux producteurs de pistaches dans le monde. Il faut savoir qu'un pistachier met environ 7 ans avant de donner ses premières pistaches. Et que, on les utilise de nombreuses manières. Alors, dans les charcuteries, par exemple, un saucisson pistaché, ça, c'est absolument délicieux.
Mortadelle.
Exactement. En pâtisserie, on peut faire des îles flottantes à la pistache. On peut faire de la glace à la pistache. On peut faire des petits pots de crème à la pistache. En salé, je vous propose une recette originaire de Sicile, qui est le pesto à la pistache. Et alors ça, les amis, sur des pâtes fraîches, tout simplement posées dessus et qui se mélangent et qui fondent dans les pâtes, c'est absolument irrésistible. Et surtout, c'est très facile à faire. Vous allez aller acheter des pistaches et vous allez vous amuser à les décortiquer. Il vous en faut 100 grammes, donc ça va vous prendre un petit bout de temps quand même où vous les achetez déjà décortiquées. 10 centilitres d'huile d'olive, 25 grammes de parmesan râpé, une vingtaine de feuilles de basilic, une petite pointe de sel si vos pistaches ne sont pas salées. On met le tout dans un mixeur. On broie en gardant un petit peu de texture, un peu de morceaux. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop fin. Et puis voilà, on fait tout simplement chauffer des pâtes fraîches. Et on vient poser 2-3 cuillères de ce pesto à la pistache par-dessus. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace, c'est délicieux. C'est la Sicile qui arrive dans votre assiette.
Oh là là, ça donne faim.
La Sicile qui explose en bouche, ça donne très très envie. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Et pour terminer, j'espère que je n'aurai pas affaire à des tâches pistache. On va jouer avec l'histoire, vous êtes prêts à vous affronter ? C'est la lutte finale.
Europe 1, historiquement vôtre.
Une question pour chacun, en cas d'égalité, même dans la nullité. Une dernière question pour vous départager avec un chiffre à donner où il faudra vous approcher au plus près de la bonne réponse. Alors je commence avec vous, Olivier. Vous le savez, le président de la République est coprince d'Andorre. Mais qui est le deuxième coprince ? C'est le pape, vrai ou faux ?
La principauté d'Andorre... Le pape, il a déjà le Vatican à s'occuper.
Par rapport à Herculanum, où vous situez Andorre exactement ?
Pas tout à fait au même endroit. Non, je dirais qu'il a déjà le Vatican, c'est pas mal, donc c'est pas lui. Non.
C'est pas lui.
Non.
Mais vous avez raison, c'est l'évêque d'Urgel, évidemment. C'est le coprince, les deux coprinces d'Andorre, c'est le président de la République et l'évêque d'Urgel, c'est l'évêque le plus proche de d'Andorre. C'est un droit féodal qui remonte au XIIIe siècle. David, qui était le plus grand, l'homme moderne ou l'homme de Cro-Magnon ?
On va dire que c'est l'homme moderne, c'est sûr, mais du coup ça doit être un piège.
À moins que ça soit un piège particulièrement vicieux alors.
Non, moi je pense que... Ah mais en moyenne. Ah mais si, puisqu'il se nourrissait mieux. Il y a un truc comme ça. Ouais. C'est en moyenne, c'est pas. Je dirais, c'est l'homme de Cro-Magnon.
Bonne réponse. L'homme de Cro-Magnon mesurait 1m83 en moyenne. Là où notre moyenne c'est actuelle énorme. Est à 1m78.
1m83, l'homme de Paris.
Oui, il mangeait bien.
Donc ça veut dire qu'il y en avait à plus de 2 mètres fréquemment.
Oui, bien sûr, oui. Mathieu, alors là, tout le monde a donné des bonnes réponses.
Voilà, vous, c'est Mathieu. Grosse pression, là.
On estime que le tyrannosaure, en hurlant, atteignait environ les 120 décibels. Ça serait l'équivalent aujourd'hui d'être à côté d'un marteau-piqueur. Vrai ou faux?
Pourquoi vous faites cette tête en lisant non,
parce
la
que,
question?
Parce que je découvre comment on m'a écrit décibels. Voilà.
Ah, d'accord, vous êtes choqué par l'orthographe. Ne le soyez pas. Hein, sinon...
Il y a un A quelque
alors,
part.
Alors donc... Je veux dire qu'il atteignait les 120 décibels qui équivaut...
Donc c'est, vous dites c'est vrai ou c'est
oui,
faux?
Oui, je dis c'est vrai,
c'est vrai. C'est vrai.
Oh non, c'est la catastrophe.
Non, c'est d'autant plus faux qu'en fait, le tyrannosaure...
Ah, il fait pas de bruit.
Oui.
Mais oui, mais je le savais. Je le savais. Mon fils qui m'écoute, pardon.
À la rigueur, des roucoulements, la bouche fermée.
Des oui. roucoulements, vous savez oui, comment faites-nous oui. un peu le tyrannosaure
pour qu'on se rende compte. Il grognait, mais... Quand vous voyez le tyrannosaure dans Jurassic Park ouvrir grand sa bouche pour effrayer tout le monde, oui. c'est une totale contre-vérité. Oui. Il n'a jamais
c'est
hurlé.
Vrai, c'est vrai,
oui.
c'est vrai, c'est
alors, vrai. Bon, vous êtes éliminé, Mathieu Noël. Mmh. Nous devons départager David et Olivier. La question qui départage, la réponse la plus proche remporte la lutte finale. Le 13 mai 1891, c'est le jour où on a fondu la Savoyarde. Alors, ça n'a rien à voir avec la fondue savoyarde.
Ah bon,
je
ah bon
dis,
c'est oui. une cloche, non?
Oui, voilà, ah, merci. Évidemment. La plus grosse cloche de France qui se trouve actuellement dans la basilique du Sacré-Cœur. Quel est son poids en kilos? La plus grosse cloche de France qui est actuellement au Sacré-Cœur. On l'appelle la savoyarde. Quel est son poids?
En kilos.
En kilos.
25 000.
25 000 et vous
25 000 kilos
550.
Kilos mmh. Mais c'est Olivier qui gagne.
Ah ouais, combien de kilos
ouais. Et de 18 835
ah ouais.
kilos.
18 000 kilos
ouais. Elle fait 3 mètres de diamètre et son battant 850 kilos. C'est le sixième plus lourd bourdon d'Europe.
Mmh. Ouais, je, genre, ouais,
c'est beaucoup pour un bourdon.
18 835 kilos. Bravo, bravo Olivier.
Ah ouais, non, mais parce que je l'avais sous-pesé une fois, j'avais trouvé ça très très lourd.
Mais c'est toi qui l'avais monté là-haut.
Ouais,
hein, on avait besoin de quelqu'un de fort. Merci à tous et bravo donc à Olivier pour cette belle victoire dans le quiz La Lutte Finale. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre se termine, c'est triste. Il était consacré à ces femmes qui ont touché le fond de l'océan. L'occasion de vous demander, Stéphane, tous nos auditeurs se posent la question, est-ce que vous pratiquez vous-même la plongée?
Pas du tout, pas du tout.
Ça vous fait peur?
Non, oui, c'est un peu peur, oui.
Non, mais manque d'attrait ou peur?
Le manque d'air, oui.
Vous avez de l'air, vous avez, on vous donne
oui,
des bouteilles d'oxygène.
Oui, mais je...
Qu'est-ce qui nous attend demain, Stéphane?
Ben demain, ça c'est vraiment pas toi.
Pas moi?
Vous si, mais eux non. On réunit trois personnages qui ont usurpé une identité, et pas n'importe lesquels. Celle de Martin Guerre, ouais. d'Anastasia Romanoff.
Et même celle plus récemment du cinéaste Stanley Kubrick.
C'était pas lui?
Bah non. Bref, à demain Stéphane. À demain les amis.
À demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.